on a un sentiment moindre de liberté, bien sûr, parce que, si vous voulez, la situation de la recherche dans les années 60 et la situation maintenant n'a littéralement plus rien à voir. Quand je me suis présenté au concours de chargé de recherche de l'INRA, j'avais 25 ans et j'ai réussi très brillamment. Évidemment, il y avait 9 candidats. Il y avait 9 postes et nous étions 8 candidats. Quand je raconte ça à des jeunes chercheurs, doctorants ou post-doctorants, ils sont littéralement ahuris. Ahuris parce qu'à 33, 34 ans, ils se présentent à ce même concours de chargé de recherche avec des listes de publications qui n'en finissent pas. Et tout ça pour avoir des postes finalement très très mal payés. Ça veut dire qu'il y a une situation, si vous voulez, de contrainte avec les systèmes de postes fléchés qui est beaucoup plus grande qu'autrefois. Beaucoup plus, et on a le sentiment, si vous voulez, qu'on est, quand dans la recherche maintenant, qu'on est quand même prisonnier. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, si vous voulez, je pense que c'est peut-être pas très intéressant. Ce que je veux dire, c'est pas du tout une critique. Hein. Ce que je veux dire, ce qui me semble plus intéressant, c'est de comprendre pourquoi les chercheurs, par exemple à l'INRA, dans les années 60, alors qu'ils avaient une très grande liberté de recherche, ont fait spontanément ce que le système exigeait d'eux. C'est-à-dire comment ils ont participé à ce projet fou, dément, cinglé d'éradication de la paysannerie, d'industrialisation de l'agriculture, d'en finir complètement. On ne peut plus parler maintenant d'agriculture. L'agriculture n'existe plus. Il faut sortir ça. Elle a été vidée de son contenu. Ce qui existe maintenant, c'est un système agro-industriel qui transforme les pesticides en pain jaquet. Hein ? Ça n'a plus rien à voir avec de l'agriculture, telle qu'on la connaissait autrefois. Donc comment... Et ça, c'est intéressant à savoir, à comprendre, disons, par quel mécanisme les chercheurs dont j'ai fait partie, moi aussi, j'ai participé à cette éradication de la paysannerie, et maintenant, on s'en moque, un certain nombre de gens s'en mordent les doigts, dont moi. Pourquoi, c'est la question que je me pose, j'ai pas été en situation de critique par rapport à ça.
Donc, en fait, mon expérience personnelle ne m'a pas conduit à poser ce genre de questions, bien que, bon, faisant partie de ce qu'on appelle un secteur science physique pour l'ingénieur, bon, j'ai été effectivement amené à m'intéresser aux applications par goût et puis considérant que ça faisait partie de ma mission, ayant accepté de faire partie de ce secteur. Par ailleurs, mais il fut une époque où on pouvait, à partir d'un problème posé par les applications, en dégager un problème, ce qu'on appelle académique, et pas au sens péjoratif, et à partir duquel on pouvait développer ses connaissances et espérer que, bon, dans un délai relativement rapproché, on pourrait répondre donc aux ingénieurs ou aux industriels qui avaient posé la question. Là, donc, en ce qui concerne... Alors, il y a quelque chose qui est voisin, c'est ce qu'on appelle la recherche militaire. Moi, j'en ai pas parlé, il y a eu une époque où on a reçu... Enfin, où nous recevions beaucoup de crédits de l'armée, et puis maintenant, bon, je veux dire, bon, ça ne fait plus partie de, bon, disons, des financements importants. Oui. Donc, il se pose aux chercheurs, il y a une question de lucidité, c'est-à-dire que il faut se poser la question de savoir si les recherches qu'on est en train de faire peuvent avoir un impact dans la société. Et ça, on ne le fait pas toujours. Et on comprend que, bon, d'une certaine manière, dans l'ivresse de son travail, et puis dans l'enthousiasme et dans la confiance que l'on peut faire dans l'homme. En tout cas, on fait un peu confiance à ses collègues. On vit dans un environnement qui est probe, hein, en majorité. Et donc, on n'imagine pas, si on n'est pas un citoyen, si on n'aborde pas les questions sous l'angle politique, que ça puisse se produire. Et bon, je crois que c'est comme ça qu'on se laisse entraîner.
Donc, je suis administrateur de sciences citoyennes. Donc, je ne sais pas si ça a été présenté aujourd'hui, mais je vais le refaire en deux mots. Enfin, un peu plus de deux mots. Mais donc, Fondation Sciences Citoyennes, c'est une association loi 1901 dont le but est de mettre les sciences à la portée des citoyens. Donc, de façon à ce que les expertises scientifiques, notamment des scientifiques qui sont lanceurs d'alerte, qui disent il y a des problèmes qui ne vont pas sur les nanotechs, sur les OGM ou sur le nucléaire, puissent être soutenus et puissent les exprimer librement sans être ostracisés dans leur... dans leurs administrations, dans leurs entreprises ou autres. Donc, on est à peu près 2000, un réseau de 2000 personnes. Donc, moi, je ne suis pas scientifique de profession, je suis paysan. Hein, donc, mais j'ai une formation scientifique en biologie auparavant. Et sur ces 2000 personnes, on a au moins 400 personnes actives. Et dans ces 400 actifs, il y a une vingtaine de lanceurs d'alerte reconnus, par exemple sur le bisphénol A, dont on a beaucoup parlé en ce moment. Mais il y a un vétérinaire qui travaillait sur des... J'ai plus le nom de sa boîte. Sur les héparines fabriquées en Chine, qui étaient des héparines frelatées, dans lesquelles on rajoutait des dossiers, qui s'est fait virer. Et on l'a soutenu au prud'homme pour tenter de le faire réintégrer ou au moins indemniser parce qu'il s'est retrouvé sans rien comme travail, quoi, parce que c'était soi-disant une faute professionnelle. Donc voilà, la Fondation Sciences Citoyennes fait aussi des dossiers d'aide ou d'études spécifiques. Par exemple, en ce moment, on a un dossier avec le ministère de l'Environnement et le réseau des semences paysannes sur la sélection participative des variétés anciennes, mais productives et non payantes, on va dire. C'est-à-dire qu'on échange entre nous ou qu'on garde notre récolte sans qu'elle soit hybride, donc avec obligation, quand elles sont hybrides, de les racheter tous les ans. Non, ceci étant dit, je crois que voilà. Ça, si vous avez des questions sur la Fondation, on pourra en parler après.
Avant de commencer mon intervention qui va porter sur l'agriculture, mais Jean-Pierre Berland a pas du tout défloré, mais bien fait une très bonne introduction. Je suis arrivé en cours de film et il y a un chercheur qui était probablement pro-nanotechnologie, j'ai pas entendu le reste, dans lequel son intervention, j'ai entendu qu'il était dubitatif sur Cro-Magnon utilisant la première massue. Peut-être que la première tribu de Cro-Magnon, se défendant contre la tribu d'à côté avec la massue, il y a des gens qui lui ont dit oh, t'aurais pas dû assommer l'autre. La différence entre les nanotechs, par exemple, et la massue, c'est que la massue de Cro-Magnon, donc il y a peut-être 100 000 ou 200 000 ans, hein, il y a longtemps qu'elle est disparue. Les nanotechs, on n'en sait rien. Les gens qui habitent autour de Fukushima jusqu'à Tokyo, ils en savent quelque chose, il y en a pour 240 000 ans. Donc le principe de précaution quand ce sont des produits naturels, ils vont se recycler dans la nature, même s'ils sont toxiques, même s'ils sont dangereux. La nature, c'est pas quelque chose de souple et sympa forcément, mais quand on crée des produits de toutes pièces, nucléaire, OGM, chimie de synthèse, nanotechnologie, on ne sait pas où on va. Parce que ce ne sont pas des produits qui se réintègrent dans le circuit normal. Donc on arrive à des risques d'accumulation, à des risques de problèmes qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaîtra dans le futur. Alors pour parler le thème là de mon intervention, c'est mesures environnementales et les résultats sur les exploitations agricoles qui en signent. Mais pourquoi y a-t-il des mesures agri-environnement dans le monde agricole d'aujourd'hui? Il faut faire un petit retour en arrière sur les politiques agricoles de l'Europe et mondiale. Mais enfin, la politique agricole européenne est la plus caricaturale de ce système agro-productiviste. Dans les années 50, l'après-guerre, le plan Marshall a fait arriver les tracteurs, produits par les États-Unis, au lieu de produire des avions, ils ont produit des tracteurs, et quasiment payés par le trésor des USA. Sauf que l'Europe des six voulait se créer, et les États-Unis n'ont laissé faire l'Europe des six, donc Italie, France, Benelux et Allemagne,
qu'à une seule condition agricole, puisque l'Europe des six au départ, ce n'était que le marché commun agricole. La condition était relativement simple, elle a été validée par les accords dits de Blair House, c'est-à-dire un château à Washington, qui laissait l'entrée libre et totale du soja américain en Europe des six. Au départ, ça paraissait relativement anodin, mais c'était la condition sine qua non pour que l'Europe des six puisse créer le marché commun agricole qui était basé sur une mesure principale, le prix garanti des céréales et des betteraves à sucre. Ce prix garanti était une aubaine et peut-être une nécessité d'ailleurs, car il a permis de nourrir à peu près l'Europe des six de façon équilibrée jusque dans les années 70-75. Sauf que l'importation libre du tout au soja au prix fixé par les États-Unis, c'est-à-dire un prix de dumping, beaucoup moins élevé que le prix réel de production chez eux, a provoqué avec la mécanisation, les engrais et le soja un bouleversement relativement simple. Les légumineuses et prairies ont été remplacées par les tourteaux de soja et on a fait à la place des céréales ou du sucre. Alors c'est un peu simplifié, caricatural, mais c'est la réalité a très vite donné des montagnes de blé qu'on a exporté à prix mondial alors qu'ils étaient achetés au double du prix mondial. Une des conditions du marché commun agricole, c'était le doublement des prix des céréales par rapport au marché mondial. Et les meilleures terres, grâce aux engrais, se sont mis à produire beaucoup plus que ce qui était les normes dans les années 30 ou début des années 50. On est très vite arrivé au rendement d'aujourd'hui, qui plafonne d'ailleurs. On est aujourd'hui en bourse à 80-90 quintaux de blé à l'hectare et à l'année. Mais il n'y a plus du tout d'animaux parce que avant l'arrivée des engrais, la luzerne et les trèfles étaient les engrais et obligés donc à avoir des animaux qui fournissaient aussi du fumier qui était aussi de l'engrais. Donc la simplification extrême amenée par mécanisation, engrais et soja a spécialisé les exploitations, spécialisé les zones et amené à des systèmes où vous avez des régions qui sont des régions réputées agricoles. Alors, j'en ai retenu une de tête, c'est le Limousin, qui est juste à côté de chez moi, je suis de Poitou-Charentes. Donc le Limousin, jusqu'en 1950, était autonome au niveau agricole et alimentaire, aux environs de 70 ou 80%. Il produisait à peu près de tout, des pommes de terre, du blé, avec des variétés adaptées à la semi-montagne, et de la viande, un peu de fruits. Donc il y avait une variété de production locale. Aujourd'hui, le Limousin produit entre 6 et 7 fois sa consommation de pommes, 6 fois sa consommation de viande ovine et bovine, et rien d'autre. Donc ils sont dépendants à 92% environ de l'extérieur. Alors l'extérieur, ça peut être faire venir du blé de Beauce, qui n'est pas forcément l'extérieur, mais n'empêche qu'il y a des déséquilibres qui ont été amenés par la spécialisation provoqué par les trois phénomènes que j'ai évoqués tout à l'heure de la mécanisation, engrais et soja. Donc on est arrivé dans un système dans les années 70-75 où les prix garantis grâce au marché commun agricole, qui étaient pratiquement, je vais parler que du blé parce que c'était la majorité des sommes engagées pour dans ce dossier de la politique agricole commune, le blé était acheté au double du prix mondial dans les meilleures zones de production du blé, le bassin parisien au sens large. Quand il y a eu trop de blé, les gens se sont mis à faire trop de lait. Donc vous souvenez probablement tous des montagnes de beurre, de lait, du beurre de Noël, etc. Le blé est facile à exporter, donc on exportait du blé à perte, mais les produits laitiers et animaux, c'est très difficile à exporter, il faut des frigos, etc. Donc la première réforme de la politique agricole commune a bridé les éleveurs laitiers de façon à ce que la production corresponde à la réalité du marché européen, qui était déjà plus que 6 à l'époque, puisqu'on devait être à l'Europe des 12. Mais les céréaliers se sont bien débrouillés pour qu'il n'y ait aucune limite en production de céréales. Alors que s'il y avait eu aussi à ce moment-là des quotas lait et céréales au niveau qui était atteint, on aurait pu obtenir un équilibre de la production européenne et ne pas continuer à exporter à perte vers le Maghreb, l'Égypte, et toujours en important du soja vendu à des prix de dumping qui déséquilibrait l'agronomie de nos champs. Parce que donc on mettait de l'engrais, cet engrais provoque un déséquilibre, fait pousser la plante de rente, le blé, la betterave, mais fait pousser aussi les mauvaises herbes. Donc très rapidement, on a dû mettre, même c'était simultané dans les années 50-55, ça s'est développé très vite, des désherbants qui accentuent les déséquilibres. Donc à ce moment-là, on a une lutte contre les insectes, contre les maladies cryptogamiques qui deviennent obligatoires. Et on a des systèmes de plus en plus déséquilibrés et toujours avec des prix garantis. Alors, la deuxième réforme de la PAC, elle date des années, donc le quota laitier des années, début des années 80. La deuxième réforme de la PAC, c'est 1992, où l'Europe a dit on en a marre de payer deux fois le prix mondial et d'exporter à perte sur les céréales. Et on va descendre les prix internes européens au prix mondial, et les sommes qu'on donnait sous forme déguisée à chaque quintal de blé, on va les donner officiellement réparties à l'hectare de chaque hectare faisant du blé. Mais les hectares qui faisaient de la luzerne, ils n'avaient rien du tout, puisque les hectares en prairie, ils n'avaient également rien du tout, puisqu'ils n'étaient pas dans les aides de départ de la PAC. Donc, les céréaliers s'en sont encore très bien sortis, sachant que 80 quintaux à 120 francs descendant, 80 quintaux à 60, ils touchaient la différence, les 80 quintaux multipliés par 60, donc ils touchaient environ 4500 francs par hectare et par an. C'est des chiffres qui ne sont pas forcément précis. Hein, Donc les céréaliers continuaient à toucher comme s'ils produisaient leurs 80 quintaux à 120 francs le quintal. Les éleveurs laitiers étaient bridés à leur quota laitier avec un prix garanti, ce qui permettait de tenir à peu près le fonctionnement, mais les autres productions n'avaient absolument rien. Ni les fruits et légumes, ni les éleveurs n'avaient la moindre aide. Alors, sont apparues ensuite les aides aux troupeaux bovins à viande. Mais c'est des aides qui sont toujours pour compenser des manques à gagner. C'est-à-dire que la prime versée pour les céréaliers, c'était un soi-disant manque à gagner parce qu'on descendait au prix mondial. Ça n'a jamais été réfléchi en disant on va stabiliser la production et on va voir après pour aider les exploitations à faire un revenu pour le paysan dessus. Donc ce phénomène d'aide à l'hectare a provoqué la course aux hectares, c'est-à-dire que les exploitations les plus fragiles, au lieu de vendre et de toucher leur argent au mois de juillet, la touchaient qu'en fin d'année, donc ça fait 6 mois de trésorerie à tenir. Tout ça, ce n'était pas forcément programmé, mais les résultats sont bien clairs. Donc 6 mois de trésorerie à tenir, le Crédit Agricole ou la coopérative agricole fournissaient. Et très vite, on est arrivé sur des exploitations qui, pour acheter les semences de l'année d'après, parce qu'ils achetaient leurs semences, bien sûr, puisqu'on est dans un système totalement intégré aux coopératives, Et il fallait qu'ils empruntent la totalité de l'achat des semences, des engrais, des produits à la coopérative ou au Crédit Agricole. Et ils ne remboursaient que à la récolte d'après. Donc on se retrouve avec des exploitations fragilisées, et la seule solution dans ces cas-là, c'est le grossissement. Et donc la troisième réforme de la PAC a encore entériné en 2002 ce système qu'on appelle maintenant les références historiques, c'est-à-dire que ceux qui produisaient 80 quintaux dans les années 70 sont toujours aidés à ce montant-là aujourd'hui, avec des modifications, maintenant ça s'appelle des droits à paiement unique, on a même le droit de les toucher sans rien faire. Donc c'est assez extraordinaire comme système. Mais en plus, si on est dans des bonnes terres, on a intérêt à faire plus et à toucher en plus les primes. Donc on est dans un système qui est d'une perversité extraordinaire. Depuis 2002, c'est 2008 là, que c'est passé, donc c'est ce qu'on appelle des aides découplées. Alors quand on ne connaît pas le système, on se dit « mais c'est quoi ce truc ?» Je peux vous dire qu'il faut déposer au 15 mai au plus tard. Sur le 12 et le 13 mai, il y a la queue devant les directions de l'agriculture parce qu'il manque toujours un papier ou Internet s'est planté. Et donc, parce qu'à l'arrivée de la fin de l'année, si on n'a pas les aides sur les exploitations marginales, les exploitations qui sont soit d'élevage, soit sur des terres de valeur moyenne, on ne passe pas. Alors que les gens dans les bonnes terres, bah, eux, ils s'en fichent, le revenu, il est fait par leur rendement, qui est obtenu avec ce que je disais tout à l'heure, engrais, herbicides, etc. Mais absolument à aucun moment, les politiques agricoles communes n'ont été gérées soit en fonction de la quantité, sauf pour le lait, soit en fonction de la qualité environnementale du travail fait. Donc dans les années... dans les années 89-90, les zones qui sont devenues maintenant pratiquement toutes des zones Natura 2000, ce qu'on a appelé à l'époque des zones défavorisées, les gens n'ayant pas forcément les moyens agronomiques ou techniques de faire des céréales, se sont dit, et la FNSEA a fait partie des dossiers, mais c'est principalement les environnementalistes qui ont lancé la réflexion, de geler ces surfaces suivant des systèmes, on va dire, archaïques, allez, pour faire plaisir à ce syndicat que je viens de nommer, mais c'est des endroits où on ne peut pas faire. Moi, je suis dans une zone de marais, un polder salé de l'estuaire de la Charente, je ne peux rien faire d'autre que de l'herbe, de très bonne qualité, en faible quantité, mais si dans le système de la PAC, on me met même des gens en bio, on va dire du Finistère Nord, hein, pour choisir, même si ces gens-là sont en bio, ils mettent l'équivalent de 10 fois plus de vaches à l'hectare, par rapport à moi qui ai un très faible chargement, puisque j'ai des terres salées. Donc, mes vaches mangent de l'herbe d'un bout à l'autre, elles n'ont jamais de complément, mais je ne peux pas lutter contre des zones extrêmement productives. Donc, nombreuses réunions, préfectures, environnementalistes et FNSEA ont mis en place, qui s'appelle maintenant les mesures agri-environnement, le défilé, on s'en fiche un petit peu, qui, plutôt que de se dire il y a un service rendu dans ces zones, qui sont des zones très différentes de celles qui nous entourent ici, mais c'est le même type de problème, de problématique. Quand on est en montagne, on ne peut pas lutter avec les gens de la Beauce si on est à des prix identiques. Plutôt que de se dire le service rendu, par exemple ici, ça évite, quand on est sur les pentes, ça évite les avalanches, ou ça permet de maintenir le tissu rural en état vivant. Chez moi, sur les zones Natura 2000, ça permet de faire venir dans les estuaires les migrateurs. C'est un service rendu. Ça purifie l'eau pour aller jusqu'aux huîtres, qui actuellement, il y a une mortalité de 95% hein, sur les seins d'huîtres. Donc, l'eau sent pas trop mauvais parce qu'elle ne circule pas, donc ça va. Mais on est dans des systèmes où on n'a pas cherché à défendre le bien public, mais simplement à se dire, dans le cas du marais, des marais poitevins, si on laboure, on draine et on fait du maïs irrigué, on va faire un revenu de... un chiffre d'affaires de, aujourd'hui, allez, on va dire 1 500 € par hectare et par an. Avec toutes les pollutions qui s'en suivent, la consommation effrénée d'eau, etc. Et la FNSEA a réussi à ce que l'administration accepte ce système de compenser une soi-disant perte de revenus. Or, le système n'a absolument rien à voir. Si sur la même surface, au lieu de faire du maïs irrigué avec force tracteur, pulvérisation, etc., y mettre des vaches et les laisser manger et faire une seule récolte de foin par an, les charges n'ont rien à voir, les systèmes n'ont rien à voir, il n'y a pas d'intrant. Personnellement, j'achète absolument rien. La ficelle, si, la ficelle pour faire des bottes, par exemple. Donc, et puis du fioul, mais 10 fois moins que si je labourais. Mais la FNSEA a obtenu que ça soit monté comme une compensation d'une soi-disant perte de production. Or, ce n'est pas une perte de production, ce sont des systèmes différents. C'est comme si on comparait quelqu'un qui roule en vélo, ça va lui coûter tant d'euros pour, par jour de déplacement, et quelqu'un qui roule en voiture, parce qu'il a son travail à 50 km, il ne peut y aller qu'en voiture, ça va lui coûter aussi tant d'euros, mais avec un coefficient 100 peut-être. Et le système qui a été mis en place de ces mesures agri-environnement n'a jamais été qu'une compensation d'un soi-disant revenu perdu. Donc on est toujours aujourd'hui dans ce système qui ne tient pas debout. Mais bon, c'est le seul système qu'en tant qu'environnementaliste, on a réussi à mettre en place. Donc ce sont les mesures agri-environnement, ce sont des contrats. Toutes les autres productions que j'ai évoquées jusqu'à présent, c'est de la liberté intégrale. On fait ce qu'on veut dans les champs, on met autant d'engrais qu'on veut. Enfin, il y a des limites, mais les limites sont tellement hautes qu'il n'y a aucun problème. Les gens qui font du maïs irrigué, ils irriguent tant qu'ils veulent. Même cette année, chez nous, il y avait des arrêtés d'interdiction très précoces. Et les gars, ils ont dû, de toute manière, même s'ils nous emmènent au tribunal, un tour d'eau, ça nous fait gagner 50 quintaux. Mettons 5 tonnes à 150 € la tonne ou 200 € la tonne, vous faites le calcul, le PV c'est 1 000 €. Donc PV pour 10 hectares. Donc là, sous le calcul que je vous ai fait, c'est pour 1 hectare. Donc le PV représente un dixième de ce qu'on gagne par hectare. Donc tout le monde continue à arroser parce qu'il y a, pour Poitou-Charentes, 4 départements, il y a 4 inspecteurs du service des eaux pour passer. Donc on est dans des systèmes d'un côté totalement libre, les mesures agri-environnement, c'est un système avec contrat avec l'État, et on s'engage à mettre très peu ou pas du tout d'engrais, à ne pas mettre du tout de chimie, à avoir des animaux dessus, et en contrepartie, on a une aide financière que je vous ai expliqué tout à l'heure, tout de suite, là, qui est une soi-disant compensation, mais en fait qui devrait être une aide pour valoriser le bien public. Si je vous ai parlé des huîtres là tout à l'heure, c'est que moi je suis devant le bassin ostréicole de Marennes-Oléron. Les huîtres, elles ont besoin de filtrer de l'eau. Avec les maïs irrigués, la Charente a un débit égal à zéro. Au lieu de, le débit d'étiage minimal, c'est 12 m³/s la Charente. Aujourd'hui, il n'y a rien qui coule à la Charente. Mais quand je dis rien, c'est rien. Il y a un barrage à 30 km en amont et il n'y a plus rien qui peut passer puisqu'il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau dans la Charente. Donc le résultat, c'est que le peu d'eau, très peu d'eau, ça doit être 1 ou 2 mètres cubes au lieu de 12 à la seconde qui passe, elle est absolument putride. Et les huîtres, qui sont quand même, pour la Charente-Maritime, la deuxième activité au niveau économique, hein, la première étant le tourisme, il n'y a plus d'huîtres. 80% l'année dernière, là, 90% de mortalité. Et le marais que j'exploite était capable de stocker de l'eau et d'en envoyer au moment où il y en avait besoin, au mois de juillet, au mois d'août. Or, aujourd'hui, la quasi-totalité des marais sont drainés pour faire du maïs, pour exporter au port de la Palisse, au port de la Rochelle. Donc, on est dans un système où, pour essayer de maintenir des prairies comme les miennes, ce contrat, nous, on est obligé de le respecter. On signe, je vous ai parlé du 12 ou 13 mai tout à l'heure. Maintenant, on signe tous les ans un engagement en disant « ferai pas autre chose que j'ai prévu dans mon contrat. Et l'État s'est engagé. Alors moi, dans mon cas, ça fait 20 ans. Donc, l'État français connaît parfaitement mon exploitation, parcelle par parcelle. Et alors, l'État s'est engagé en contrepartie à nous verser, avant le 31-12 de l'année en cours, une somme correspondante. Alors moi, en moyenne, comme je suis dans une zone très environnementale, j'ai 200 euros par hectare, en moyenne. Tout à l'heure, je vous ai dit, un hectare de maïs, non, je vous ai parlé de blé, mais un hectare de maïs irrigué chez moi, c'est presque 600 euros par hectare et par an de prime de droit à paiement unique. Donc on touche le tiers, mais c'est vrai qu'on a beaucoup moins de charges, c'est un système qui est beaucoup plus souple. Mais n'empêche que l'État français s'est engagé avant le 31-12. En 2010, j'ai touché cette somme, moi personnellement, et je ne suis pas le seul, au 14 juillet, mais pas à 2010, 14 juillet 2011. Alors que les primes PAC, elles sont tombées le 2 décembre. Tout le monde touche au 2 décembre. La moitié des primes PAC pour l'année 2011 va tomber au 15 octobre. Parce que vous comprenez, il y a 2012 qui arrive, donc il faut faire plaisir aux céréaliers. Donc l'État français, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, vous avez tous entendu qu'il fallait qu'il y ait 20% en 2020 d'agriculteurs bio, parce que les agriculteurs bio touchent aussi les conversions, c'est une mesure agri-environnement. Donc l'État français, d'un côté, vote des lois en disant le Grenelle va arriver à 20% en 2020 d'agriculteurs bio, mais il ne paye pas les agriculteurs qui se convertissent ou qui protègent l'environnement dans les délais. Donc il y a des interventions qui se sont faites au niveau politique, au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, et on a reçu un courrier du préfet de Poitou-Charentes, disant, on a eu des problèmes avec la tempête Xynthia, on a payé, c'est vrai, ils ont payé les choses qu'il fallait payer pour les agriculteurs, on a payé les primes PAC, ça, c'est normal, c'est l'Europe qui les paye, donc ils se feraient taper sur les doigts, mais les mesures agri-environnement, elles passeront après tout le monde et on les paiera quand on aura le temps de les payer. J'agrémente légèrement la phrase, mais c'est marqué. Elles viendront dans un second temps. C'est pas notre. Les délais qui sont marqués dans les contrats signés, ce n'est pas notre problème. Donc, le système donc, de la politique agricole commune, qui avait ce second pilier, ça s'appelle comme ça, de mesures agri-environnement, l'État français, malgré le Grenelle de l'environnement, ne respecte pas ses engagements. Donc on est dans un système qui est particulièrement pervers, parce que on fait croire aux consommateurs qu'il va y avoir des produits bio français. Aujourd'hui, on a 3% environ de la surface agricole utile qui est en bio, et le volume nécessaire pour fournir aux consommateurs, c'est à peu près 5% du marché, 4,5% je crois. Donc il y a une part assez importante des produits bio qui sont importés de l'étranger. Alors notamment le lait par exemple, beaucoup du lait bio vient d'Allemagne et d'Autriche. Donc on est dans des systèmes qui sont d'une perversité totale. Le même système que faire passer le nucléaire en force, faire passer les OGM en force, les nanotech, et l'administration, on n'est pas surpris qu'elle ne bouge pas le petit doigt contre les nanotechnologies, ou que aujourd'hui les 67 faucheurs de Colmar sur la vigne transgénique qui ne présentent aucun intérêt, aucun viticulteur ni aucun vigneron n'en veut, parce que personne ne veut mettre d'OGM dans le vin. Ils viennent d'être condamnés à 3 mois de prison avec sursis, 57 000 euros d'amende pour de pénalité pour l'INRA de Colmar. Donc, il y a des moments où on se demande où ce système de l'administration va nous mener. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question. Si vous avez des questions techniques, et après, si vous voulez passer à des questions plus politiques, parce qu'en fait, c'est là que ça se joue, quoi, si vous voulez. En tant que paysans bio et écolo, on est vraiment contrebattu malgré les engagements, les votes faits à l'Assemblée nationale et au Sénat, quoi, malgré les engagements du gouvernement. Et ça pose vraiment un problème de société très, très, très prégnant, quoi. Comment on fait pour se sortir d'une administration qui, en fait, ne veut pas revenir en arrière sur 50 ans d'erreur? J'ai évoqué le procès de Colmar. La direction de l'INRA a demandé à ses, alors je mets des guillemets, à ses chercheurs de Colmar de venir au tribunal ce matin en blouse blanche avec des banderoles, liberté à la recherche, etc. Je dois dire que bon, les chercheurs qui ont fait ça, ils ont peut-être plus des pseudo-trouveurs que des chercheurs, pour reprendre la comparaison de tout à l'heure, mais n'empêche que c'est quand même extraordinaire qu'une direction d'une administration envoie ses chercheurs manifester pour une décision du peuple, quoi, parce que 80% ou 90% des citoyens français ne veulent pas d'OGM. Alors, qu'ils cherchent autre chose, qu'ils fassent des recherches sur l'agrobiologie, par exemple. Ou s'ils ne veulent pas chercher sur l'agrobio, qu'ils fassent des recherches sur l'agroécologie. Ça changera le mot, mais ça ne change pas grand-chose sur la réalité. S'ils ont peur de parler d'agriculture biologique, qu'ils parlent d'agroforesterie, ce n'est pas un problème. Ils ne sont pas beaucoup plus chers. Ce n'est pas vrai. C'est pas beaucoup plus cher. Alors, sinon, la bio n'est pas plus chère parce que la consommation en bio, c'est un système d'alimentation qui est différent. On mange beaucoup moins de viande. Et moi, je suis producteur de viande, donc je ne devrais pas dire ça. Et je m'aperçois qu'à force de parler de consommation bio, les prix sont plus élevés quand on achète les choses, mais comme on consomme très différemment, on consomme plus de légumes, moins de viande, le résultat des courses est surtout qu'on est en meilleure santé. Je vais vous faire une comparaison d'efficacité. Sur les deux communes où j'exploite, hein, Fourat et Saint-Laurent-de-la-Prés, il reste 10 exploitants, dont moi. Attendez, mais laissez-moi finir. Il en reste 10. Sur les 10, il y en a 9 qui sont en chimie. Qui étaient, parce qu'il y a au moins 3 morts. Et 2 Parkinson et 1 Hodgkin. Ça vous va comme chiffre? Ça fait 7, je crois. Et les deux autres, je ne sais pas, je ne les connais pas assez. 7 sur 9. Oui, mais il y en a. J'ai dit qu'il y avait 2 Parkinson et 1 Hodgkin. Donc ça fait 6. Donc il en reste 3, pardon. Non, c'est pas que je n'ai pas consommé bio, c'est que les produits, les insecticides sont des produits qui attaquent les cellules nerveuses des insectes, et nous avons les mêmes fonctionnements de cellules nerveuses, et donc ça attaque nos cellules nerveuses, point. Les pesticides, insecticides, ce sont des molécules tueuses, donc elles tuent ce qu'elles trouvent. C'est pas difficile. Mais le résultat est très clair. Vous avez, cette remarque est assez amusante, mais quand les médecins voient un cancer arriver, qui est la première question qu'ils posent aujourd'hui, vous fumez, vous buvez, vous êtes agriculteur? Et s'il y a les trois, voilà, vous le mettez dans l'ordre où vous voulez, mais c'est comme ça.